Monsieur le titulaire de la chef franquie, chers collègues, cher monsieur doyen, la Grèce en chœur, rémanence poétique, polyphonie politique. Le titre est si accrocheur que je m'en veux de retenir un petit temps, ne vous en faites pas trop, un petit temps l'attention de l'auditoire. L'attention de l'auditoire dans sa hâte de découvrir vos rémanences, vos polyphonies, de laisser l'auditoire porter de la poésie à la politique. À lire la liste des personnes qui ont plutôt prié le département de les excuser, vous devez avoir, monsieur le doyen, un certain nombre d'amis, sinon en tout cas d'admirateurs. Ils nous ont demandé de les excuser, le cardinal Julien Ries, monsieur Pierre Van Mourbeek, administrateur délégué de la Fondation Franqui, la baronne Janine Delruel, monsieur Denis Matten, gouverneur de la province, monsieur Denis Knoffler, professeur au Collège de France, monsieur Hervé Asquin, secrétaire perpétuel de l'Académie royale de Belgique, les professeurs Lambros Kouloubaristis, Monique Mundopchi, monsieur Philippe Elixmann, monsieur Jean Huinan, les professeurs Lefka, Dominique Longré de l'Université de Liège et Philippe Toin, mon vice-recteur à la recherche de cette université. Je me permettrai de saluer la présence d'un collègue et surtout d'un ami, monsieur Didier Vivier, recteur de l'ULB, je crois que c'est un spécialiste. Également. Les professeurs André Allard, Jean-Marie Cauchy, membre de l'Académie royale, nous font plaisir de leur présence. Les professeurs des universités francophones, outre ceux qui appartiennent à cette maison, Nagy Abra, qui est venu doyen de la faculté d'informatique, qui vient s'instruire pour la présence future d'un titulaire de la chaire franquie à la faculté d'informatique, les professeurs Marie-Thérèse Rapsat, Paul Delbouille, Daniel Donné, René Lebrun, André Motte, Jean-Claude Pollet, Georges Rapsat, René Noël, mesdames et messieurs les professeurs Martin Willems, Hans Bouillon, Marco Cavalieri, Jan Vriessen, Bernard Fels, Paul Fontaine, Lambert Isbart, je vous plaît à saluer son retour, et Bruno Rochette. Nous sommes contents d'avoir parmi nous Marie-Bernadette Maas, qui est présidente de la Fédération des professeurs de grec et de latin, qui a bientôt fêté les 50 ans de sa fédération, pas les siens, ainsi que Madame Annie Verbank-Pierrard, qui est directrice du musée de Marimont. Nous sommes également contents d'accueillir M. et Mme Jacques Pierrard de l'association Alexandre le Grand de Charleroi, qui est si efficace dans la défense de l'hellénisme. Vous voyez, vous avez de nombreux amis. En mettant à leur disposition les moyens d'inviter des chercheurs et professeurs extérieurs ou étrangers, la Fondation Franqui offre aux universités et à la nôtre aujourd'hui un ballon d'oxygène très apprécié. Je souhaite ici, au nom de l'ensemble de l'université, au nom du département classique, les remercier pour l'action de cette fondation. Cette année, le poste de professeur invité, mis à la disposition de la faculté des lettres, grâce à la générosité de cette fondation, permet au département de langue et littérature classique d'inviter, en la personne de Charles Doyen, ici présent, jeune brillant chercheur du FNRS, il y occupe le poste de chargé de cours, d'inviter cette personne éminente. Charles Doyen explore les multiples facettes de l'hellénisme, et ce dans un projet global, centré sur l'héritage vivant de la Grèce antique. Ses travaux polyvalents sont ceux d'un philologue rigoureux, Il maîtrise aussi bien, je vais dire le français, mais surtout le latin, le grec. Il s'est initié aux langues orientales. Il s'est formé aux disciplines historiques. Il s'est spécialisé progressivement dans l'épigraphie grecque, dans la numismatique, dans la religion grecque et avant toute chose, dans la littérature grecque qu'il enseigne à l'Université catholique de Louvain. Toute cette activité, il l'amène sous la direction d'un promoteur notoire dont j'ai déjà cité le nom, le professeur Lambéris Barre, longtemps professeur de grec et de latin dans notre université où, je puis en témoigner, il laisse un souvenir impérissable. L'activité protéiforme de recherche de Charles s'inscrit dans une longue tradition propre à notre pays qui peut s'enorgueillir d'avoir fourni depuis Erasme de remarquables humanistes qui ont toujours eu comme ambition d'éviter le cloisonnement stérile auquel on veut parfois, par facilité, contraindre trop tôt nos jeunes chercheurs. Il est vrai qu'explorer l'hellénisme dans ses multiples facettes n'est pas aisé. La pensée grecque est intense, profonde, elle exige de ceux qui prétendent l'explorer de rares qualités. C'est parce que il reconnaît chez Charles Doyen ses qualités que le département de langue et littérature classique a spontanément cité son nom quand il s'est agi de proposer un candidat pour occuper cette prestigieuse chaire Franqui. J'évoque très rapidement les travaux publiés par le candidat, et cela en suivant les thèmes de recherche qui sont les siens. En matière de religion grecque, sa thèse de doctorat est remarquée. Elle porte sur le rôle du dieu Poséidon comme paradigme de la souveraineté humaine, tel qu'on voit ensuite l'évolution entre l'époque mycénienne et l'époque archaïque. En matière d'économie antique, on souligne ses études épigraphiques portant sur des inscriptions comptables de l'époque hellénistique, et surtout un ouvrage de synthèse sur les étalons monétaires et pondéraux de l'argent et du bronze, dont le fonctionnement dessine, excusez du peu, 20 siècles à l'avance, les marches du métallisme moderne avec lesquelles Charles Doyen le compare dans un article qui est sous presse dans la Revue Générale. En matière de littérature ancienne, ses recherches pointues portent aussi bien sur les œuvres d'Horace que sur une ancienne épopée presque entièrement perdue, la Thébaïde cyclique. Parmi tous ces thèmes, il n'a pas été facile de choisir les leçons de Améroise que l'on souhaitait confier à Charles Doyen. Le département s'est arrêté sur des leçons de littérature, et ce, afin d'insérer au mieux ces leçons dans la formation dispensée au niveau du premier cycle, aux étudiants des cours d'histoire, d'archéologie et de philologie. Ces cours sont centrés en définitive sur la littérature grecque, depuis Homère jusqu'à sa palinodie prophétique latine, qu'Énéide de Virgile. Entre l'Odyssée et l'Énéide, deux œuvres exceptionnelles, l'une issue de la tradition orale, l'autre épopée savante, le projet des leçons proposées s'encadre à merveille. La chaire Franqui octroyée à Charles Doyen est pour le département qui le porte l'occasion de rappeler la place exceptionnelle qu'occupe l'hellénisme dans notre culture. Et ce, à une époque où l'ignorance programmée de la langue grec et l'oubli des textes fondateurs, ceux d'Homère, les tragiques grecs, ceux de Platon, d'Aristote, mais aussi d'Euclide, et à leur suite tant d'autres écrivains et savants d'exception, brouillent les esprits. C'est parce que cette littérature grecque est le fruit d'une fusion, voire d'une osmose profonde, entre d'une part les traditions orientales et d'autre part les comportements fondés sur ce que l'on a, à juste titre, appelé l'idéologie européenne, que la culture grecque est seule à rendre compte intégralement de nos manières de penser, de vivre et d'affronter le monde. Que la culture grecque fut toujours, pour tout savant, le tremplin et le socle de leur science, physique, astronomie, arithmétique, géométrie, psychologie et tant d'autres, sont des mots grecs, et donc des créations du savoir grec. D'autres, comme chimie ou médecine, s'ils empruntent leur terminologie au latin, n'en sont pas moins eux aussi des domaines dont les fondements remontent à la Grèce. En conclusion, chacune de nos facultés universitaires est en quelque sorte un héritier de la Grèce, et même si nous nous comportons aujourd'hui trop souvent comme des enfants gâtés qui s'emparent de l'héritage sans reconnaître leur dette filiale, il est peut-être utile et important de le rappeler. L'explosion des savoirs en tout domaine que nous connaissons aujourd'hui est, dans le droit fil, les découvertes innombrables des savants de la Grèce antique. Ces savants, étaient obsédés par une volonté de comprendre, d'une part, l'univers physique, le macrocosme, mais également son équivalent humain, le microcosme. Et ce, dans un élan singulier qui immergeait le spectateur au cœur du monde observé. Par d'habiles métaphores, il soulignait l'immanence des comportements humains qui reproduisent leurs élans, leur effroi, les pulsions et les tempêtes cosmiques. Ils admirent la beauté inscrite dans la nature et incarnée dans les êtres, tout en révélant les troubles du désir que cette beauté éveille et à l'opposé, les sombres inquiétudes de l'âme. Cette profonde et instinctive humanisation de l'exploration en tout domaine donne à l'hellénisme sa force d'analyse, sa puissance d'invention, sa propension au débat dialectique, ce débat qui est la forme suprême de la pensée humaine, la structure obligée de tout discours sur l'homme. Cet homme grec qui est si paradoxal en ces instants, si grand dans sa volonté de construire des savoirs. Cet homme grec, qu'on le vante, qu'on oublie provisoirement, reste et restera le miroir indélébile de notre appétit de connaissance, mais aussi d'un humanisme riche et complexe qui seul permet l'élévation de l'esprit. En vous choisissant, monsieur le doyen, pour nous guider par l'évocation des chefs-d'œuvre de la littérature grecque sur le chemin de l'hellénisme, le département de langue et littérature classique entend rappeler aux étudiants de l'université namuroise l'importance stratégique de cet héritage. Le département joue magnifiquement son rôle. Il révèle, en prenant un jeune chercheur, que cette veine-là n'est pas éteinte et ne peut pas s'éteindre. Je tiens personnellement, au nom de l'université, à remercier le département et à vous remercier, Charles Boyen, d'avoir accepté de relever ce défi, de remettre au centre de nos réflexions la dimension des philosophes.